Donc on va regarder le Rishon, ou en tout cas le début du Rishon à Azinu. Alors d'abord, Azinu, c'est une Shira. C'est-à-dire c'est un texte un peu poétique. Et c'est une Shira, mais on pourrait dire que c'est pas complètement une Shira. Parce que si vous regardez comme c'est écrit dans la Torah, Azinu est écrit en deux colonnes. Il y a écrit Azinu Hashamayim Vadabera, espace, un gros espace, et dans le début de la deuxième colonne, c'est marqué Vetishma Aretz Imrefi. Ensuite, Yarov Kamatar Likri, Fizal Katar Imrati, etc. C'est écrit en deux colonnes. La Shira Yam, dans le Sefer Torah, elle n'est pas écrite en deux colonnes. Elle est écrite, elle s'appelle Ariach Al-Gabé Levena. C'est-à-dire, elle est écrite comme un mur de briques. Dans un mur de briques, quand vous mettez, vous avez sur une ligne, vous avez deux briques qui se misent côte à côte. À la ligne d'au-dessus, les briques, elles ne sont pas les unes au-dessus des autres, elles sont à cheval. La brique d'au-dessus, elle est à cheval sur les briques d'en dessous. La Shira, elle est écrite comme ça, la Shira Tayam. C'est ça vraiment, ça c'est complètement stable. D'accord ? Si on construit un mur avec les deux colonnes, ben ça s'effondre. Deux colonnes, c'est pas stable. Beaucoup plus stable, on ne construit jamais un mur en mettant les briques les unes au-dessus des autres. On met deux briques, puis après, la colonne après, elle s'est décalée de telle sorte qu'une brique soit à cheval sur deux autres briques d'en dessous. C'est clair pour tout le monde, je pense. Oui. Tout le monde a déjà vu un mur. Mais Azinu est sur deux colonnes. D'une certaine manière, c'est pas le plus stable. Donc c'est un peu étonnant qu'on n'ait pas écrit cette Shira sous forme de Shira, mais bon, on peut l'expliquer, mais c'est pas mon propos maintenant. Cette Shira, c'est quelque chose de très important. Le Ramban, dans son introduction à la Shira, à cette Shira, il écrit: c'est en fait ce chant, cette Shira, est une garantie pour la rédemption future. Et pour nous dire que malgré tous ceux qui n'y croient pas, en quelque sorte, ça vient nous assurer qu'il y aura effectivement une telle situation. Et dans le Sifri, le commentaire halakhique de la Torah, enfin en l'occurrence de Dvarim, dit que cette Shira elle est très grande parce qu'elle contient à la fois le passé, le présent et le futur du clan d'Israël. Ça contient des sujets de ce monde et aussi du monde à venir. Et c'est ce qui est dit de façon allusive quand on dit que Moshe est arrivé et il a raconté toutes ses paroles aux oreilles du... Ça veut dire, toutes ces paroles, ça veut dire, ça contient la prophétie pour tous les sujets. Et ça explique beaucoup de choses. Et si... Bon, écoutez, moi je ne peux pas gérer ça. Ils ont appelé tous ensemble, je ne sais pas. Et alors on sait bien que c'est très court, il y a 52 psukim, c'est pas beaucoup. Et malgré tout, ils disent, les astrologues ont même pris appui sur ces textes pour prédire le futur, etc. Mais si c'était comme ça, ce serait quelque chose qui viendrait fortifier nos croyances, puisque effectivement, beaucoup de choses se sont déjà, dit Ramban, se sont déjà réalisées telles qu'elles ont été décrites dans cette Shira. Rien n'a été, dans ce qui concerne le passé, rien ne s'est pas réalisé. Donc, en fait, on doit aussi faire confiance que dans le futur, ça continuera de se passer de cette manière-là, parce que Moshe Rabbeinu est Néhéman, il est fiable. Tout ce qu'il a dit, effectivement, c'est réalisé ou va se réaliser. Donc, ça c'est donc, de façon générale, quelque chose qui est dit dans Ramban et par d'autres au sujet d'Azil. Alors je regarde, d'abord je voudrais voir avec vous le texte lui-même. Comme c'est de la poésie, alors les mots sont des fois un peu compliqués, n'ont pas de traduction immédiate, ou ce sont des images évidemment. On va regarder donc ces six premiers versets qui composent la première montée de l'Azil, le Rishon d'Azil. Donc, Azino Hashemaim Vadabera, Vetishma Haaretz Imrefi. Ça veut dire ici que Azino, le Azin, c'est la chose construite sur le mot Ozen qui veut dire l'oreille. Azino, ça se traduit en français par prêter l'oreille. C'est pas simplement écouter, mais c'est prêter l'oreille. Donc, il s'adresse, Moshe Rabbeinu s'adresse aux cieux, et il demande aux cieux de prêter l'oreille, va d'Abera, et littéralement, je vais parler. Mais en fait, je voudrais parler. Cieux, donc, prêtez l'oreille, je voudrais parler. Qu'est-ce que ça veut dire ici, exactement, que Adabera, c'est-à-dire je vais parler, je veux parler, j'ai des choses à dire. C'est ça qu'il veut dire, je souhaite parler et j'ai des choses à dire. Mais Moshe Rabbeinu ne veut pas parler tant que les cieux ne prêtent pas l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire prêter l'oreille ici? Yves explique que prêter l'oreille, ça veut être déjà pratiquement d'accord avec ce que je vais dire. Je veux que un espèce d'avis, d'a priori favorable à ce que je vais dire, de la part du ciel. On va expliquer que Moshe Rabbeinu est plus proche du ciel, c'est pour ça qu'il cite d'abord le ciel, et pas, comme on va voir plus loin, que Yeshayahu, lui, il a cité d'abord la terre. Le prophète Yeshayahu était plus près de la terre, Moshe Rabbeinu plus près du ciel. Vetishma haaretz, et qu'elle entende la terre, Imre fi, les paroles de ma bouche. Là, on voit Hazinu comme quelque chose de actif, prêter l'oreille, et qu'elle écoute, c'est plus passif, la terre, les paroles de ma bouche. Je vais d'abord lire le texte. Ya'arof kamatar likri, tizal katal imrati, kiseirim ale deshe, vechir revivim ale etzev. Ya'arof, alors, ce mot de Ya'arof, ça veut dire, Ya'arof, la racine, ain rechte, ou fait, c'est la nuque. La nuque, c'est bien l'articulation entre la tête et le corps. C'est formé de des os, en fait. Et donc, l'idée de derrière cette notion de Ya'arof, ici, ce serait de dire que c'est puisque c'est la nuque, c'est cette articulation entre la tête et le corps, ça veut dire il faut, avec la nuque, on peut bouger la tête, et par exemple on peut acquiescer ou nier très facilement des petits, tout petits mouvements de la tête qui permettent d'exprimer son assentiment ou son fait qu'on n'est pas d'accord. Et donc ça veut dire ici que ça doit couler, on veut que ça coule doucement, en fait, légèrement. Comme donc que s'insinue que mon enseignement, l'écrit, c'est mon enseignement, comme de la pluie, s'insinue. Ça veut dire qu'elle, peut-être il faudrait dire ici, peut-être qu'elle. Oui, bon, disons comme ça, que ça s'insinue dans, en moi, c'est mon enseignement, que s'insinue mon enseignement, et tisal katal, donc on a utilisé matar, matar c'est la pluie, n'est-ce pas? Tisal yarov kamatar, comme de la pluie, s'insinue qu'elle coule, c'est comme de la pluie. Tisal, alors, ce mot de tisal, c'est une forme de ruissellement, en fait. C'est une façon de parler comme des ondées, je crois. En français, c'est quelque chose de ce genre-là. Comme la rosée. Imrati, ma parole. On va voir la différence entre l'écrit et imrati tout de suite. Qui, seirim. Seirim, c'est en Samach Einrech, ou Shin Einrech, c'est la même chose. C'est la tempête. Donc ici, il s'agit dans cette Seirim, c'est la pluie qui est consécutive à la tempête. Il y a eu du vent, etc. Et ça pousse une certaine pluie qui tombe d'une certaine manière, comme des Seirim, en fait, comme donc quelque chose qui tombe violemment, avec une certaine violence. Les déchets sur le gazon. Vechir revivim, et revivim, c'est encore une autre sorte de pluie. Ce sont des averses. Des averses sur l'herbe. SF, c'est l'herbe. Donc vous voyez ici, cette eau qui vient du ciel, elle est dite de plusieurs manières. Elle est dite sous forme de pluie, elle est dite sous forme de rosée, elle est dite sous forme d'ondée, si vous voulez, elle est dite sous forme de pluie violente, elle est dite sous forme d'averse. Le fait que il y ait dans la Torah une certaine richesse de vocabulaire pour désigner différentes sortes de pluies. C'est important, c'est significatif. Vous avez, je sais pas, chez les Inuits, ils ont un vocabulaire extrêmement étendu, extrêmement précis pour caractériser toutes les sortes de neige. Nous, en ville, il neige ou il neige pas. Et d'autres endroits, il y a la neige, c'est de la poudreuse, elle est lourde, etc. Mais plus on vit dans le monde de la neige, plus le vocabulaire est étendu. Et donc, si nous avons un vocabulaire relativement étendu pour décrire la pluie, c'est parce que la pluie joue un rôle fondamental. Étant donné qu'Eretz Israël n'a pas d'eau par elle-même, nous sommes réduits à prier pour la pluie. Et toute ma Maseret Ta'anit est consacrée à ça. Le traité Ta'anit, qui parle des jeûnes, ne parle pas du tout de Kippour, de Béhav, etc. Ça parle des jeûnes qu'on fait quand il n'y a pas de pluie, quand il y a donc menace de famine, et donc toutes les procédures qu'on a pour justement pour faire face à la, pour essayer de faire céder Hachem et qu'il nous envoie la pluie dont on a besoin, parce qu'on a vraiment besoin. D'un autre côté, le fait que les Bnei Israël soient obligés de se tourner vers le ciel pour demander la pluie parce qu'ils n'ont pas de, il n'y a pas d'eau autrement, et qu'ils n'ont pas à manger, c'est une aide qui nous est donnée pour nous tourner naturellement vers le ciel. Alors ça nous pousse à la prière, en fait. Donc, le fait que Moshe Rabbeinu ici utilise cette variété de description des types de pluie ou d'eau qui descendent, bon, ça fait référence à quelque chose d'essentiel pour le clan d'Israël. Qui, Shem Hashem Ekra, alors le mot qui, Rachid le ramène souvent, que qui a de nombreuses significations. Qui, ça peut vouloir dire car, ou ça peut vouloir dire lorsque, par exemple. Alors, est-ce que ici il faut dire car, le nom d'Hachem, je vais le proclamer, ou lorsque je proclame le nom d'Hachem, Havu Godel Elokeinu, dites de la grandeur, en fait, proclamez la grandeur de d'Hachem, en réponse, en quelque sorte. Moi, je vais crier le nom d'Hachem, Ekra, et vous répondez, en quelque sorte, en disant la gloire, la grandeur d'Elohim. Vous savez bien, on l'a vu, que de ce verset, on apprend Birkat HaTorah, Birkat HaTorah. C'est de ce verset qu'on apprend Birkat HaTorah. Mais en fait, il y a toute une discussion, sur laquelle on reviendra peut-être plus vite, pour savoir si on parle de Birkat HaTorah, la Birkat HaTorah qu'on fait tous les matins, ou est-ce que c'est la Birkat HaTorah qu'on fait dans la Kriyat HaTorah Mina Betzibur, qu'on fait, la bracha qu'on fait quand on monte à la Torah et qu'on lit la Torah Betzibur, donc collectivement, parce que à cause de ce verset-là, le Ramban et le Rambam sont en opposition. Le Ramban dit que la Birkat HaTorah est la Mina Torah. Faire la bracha, Birkat HaTorah, c'est une bracha Mina Torah. Il n'y a que deux brachot qui sont Mina Torah. C'est Birkat Amazon quand on est rassasié et Birkat HaTorah d'après Ramban. Mais le Rambam, lui, il considère pas, il n'a pas compté Birkat HaTorah comme une mitzvah tassé Mina Torah, mais comme les autres brachot, c'est un des Rabbanan. Alors le Ramban s'oppose à lui et c'est un peu difficile d'expliquer, de venir au secours du Rambam, de Maïmonide, donc, parce que l'argument de Ramban est assez fort. Mais bon, on peut. Je ne vais pas en parler maintenant, tout de suite. Hatsur, alors maintenant voilà. Le Hirsch explique que ces trois premiers versets, c'est en fait une introduction à la Shira. Et la Shira, en fait, elle ne commence que maintenant. Que dans ce quatrième verset, dans lequel on dit Hatsur. Hatsur, c'est le rocher. C'est un des noms divins. Il y a une dracha sur Hatsur qui dit à la fois le rocher avec tout ce que représente l'idée de solidité, de possibilité d'ancrage, etc. qu'il y a dans le rocher, mais il y a une dracha qui prend le vav de Hatsur et qui le coupe en deux, et qui en fait deux yud, et qui lit Hatsayar, donc qui dit d'Hachem qu'il est le Tsayar. Il est le dessinateur, le peintre, le sculpteur, le plus parfait qui soit. Mais c'est deux aspects, en fait, de l'enseignement de Moshe Rabbeinu, qui voulait à la fois faire référence à Hachem comme le tout puissant, en fait, et l'autre référence à Tsaya, qui est comme le mot Tsura, qui veut dire la forme. Ces deux enseignements d'Ibn Sifri qui correspondent à la mission, en quelque sorte, de Moshe Rabbeinu qui devait enseigner la Torah faire connaître Hachem à la fois comme le Tsayar et comme le Tsur, comme le rocher et comme le Tsayar.
Et le Tsar, c'est la même aussi.
D'autres choses, oui. Enfin, si on dit que Yotzer c'est porteur, c'est la Lachon Tsoura, c'est la deuxième, c'est comme Tsaya. Il n'y a pas de Tsour. Atsour, Tamim Paolo. C'est-à-dire, ce rocher, son action est parfaite. C'est-à-dire, en fait, ce que. Cette idée de Tamim Paolo, son action, on ne parle pas du résultat, on parle de l'action elle-même, de son activité en quelque sorte. Et elle est parfaite, cette activité, c'est une activité parfaite. Kichol Drachav, toutes ses voies sont Mishpat, c'est-à-dire son justice. Ce n'est pas simplement que le résultat est parfait, mais le chemin est également un chemin de justice. Des fois, on peut très bien imaginer que le chemin soit un peu injuste, mais on est arrivé au bon résultat. On a pris un mauvais chemin, mais le résultat est bon. Et ça, c'est pas ce qu'on veut dire ici, c'est le cheminement lui-même et Mishpat. Quel Emouna, c'est un Dieu auquel on peut faire confiance. Ve'en Avel, il n'y a pas de violence. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui ne. Avel, c'est presque un abus de pouvoir. Il a tous les pouvoirs. Mais il y a un risque d'abus de pouvoir, il n'y a jamais d'abus de pouvoir de la part de Hachem. Sadik, il est juste, Veyachar, il est droit. Bon. Ensuite, le verset 5, il est incompréhensible. Shichet lo, lo banav mumam, dor ikesh uftaltol, en tout cas le début de ce verset de Shichet lo, lo banav mumam, on va regarder ça par la suite, mais c'est la bouteille à encre, on ne sait pas du tout comment il faut le lire. C'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs façons de le lire, mais aucune n'est absolument satisfaisante. Très difficile à comprendre. Et puis ensuite, il y a Ha, Lachem, Tigmenuzot. Ce He, il est écrit dans le Sefer Torah, il est écrit comme une lettrine, comme une grande lettre. Le He est en gras, si vous voulez. Et ce serait comme un mot pour soi, un mot en soi, un mot à la place de c'est-à-dire le hé remplace tout un mot. Et vous avez le quand on dit ha, ça veut dire n'est-ce pas que, ou c'est une interrogation en fait. Alors, ça forme un mot. Pour soi, comme je vous dis, le Midrash, le Tanhuma, il explique que Moshe Rabbeinu a voulu signer son nom. Il a voulu mettre dans en apostiche son nom dans le poème en question. Et le He, c'est la fin de sa signature. Et le Midrash explique que la somme des lettres initiales de des six versets vaut 345. Et 345, c'est la gématria de Moshe. C'est la valeur numérique de Moshe. Donc le He de Azilou, le Yud de Yaarov, le Kaf de Ekra, de Kishem Hashem Ekra, et le He de Hatsur Tamim Paolo, le Shin de Shichet Lo, et le He de Ha'la Hashem, ça fait 345. Et le Rabbin Mou qui rapporte que le Rabban avait une tradition selon laquelle les noms des hommes et leur destinée, en fait, trouvent une allusion dans les versets d'Azinou. Alors, on raconte qu'il y a un ancien élève du Rabban qui était devenu un renégat. Et le Rabban l'a rencontré, et il lui a demandé pourquoi tu es devenu un renégat. Alors l'élève lui a dit, je t'ai entendu raconter une fois cette tradition-là, j'y crois pas, c'est inconcevable. Alors le Rabban lui a demandé, mais quel est ton nom à toi? Alors il a répondu, je m'appelle Avner. Alors le Rabban lui a dit, c'est écrit dans la Shira justement d'Azinu. C'est le verset 26. Et c'est marqué Apehem Ashbita Me'enosh Zichram. C'est la troisième lettre de chaque mot qui forme le nom Abner. Et ça indique effectivement que Abner sera un renégat. Ça va. Si on prend les troisièmes lettres de, ça indique bien que tu, c'est bon, c'est en ordre.
Ça existe encore.
Quoi?
Ça existe encore comme.
Si ça existe le temps du Ramban, c'est toujours vrai, hein.
Non mais comme prénom, ça existe encore.
Ah ben oui, mais ça existe. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde. Tous les Avner sont des renégats. Mais lui qui dit, il y a une possibilité de lire Avner comme dans cette combinaison-là. Il y a d'autres lectures possibles d'Avner avec d'autres combinaisons. Il a dit, maintenant que tu es devenu renégat, alors tu penses que, lui il voulait dire c'est impossible de trouver cette chose-là. Voilà, je te la trouve. Ça montre. C'était les Rishonim. Bon, on dit sur les Tanaïm qu'ils étaient des Sophrim. Ils comptaient les lettres. D'accord? Quand on vous dit au déboté, on vous dit un nom et puis vous êtes capable de dire si on prend la troisième lettre de verset 26, on n'obtient rien. Bon, ben vous êtes le Ramban. Là que ils avaient tous, c'était le. Devant eux, ouais, complètement, très clair. On a dit du Abraham de Vologine, il avait un petit frère qui était assez génial. Et un jour, Abraham de Vologine a fait l'éloge de son frère, qu'il savait par cœur, etc. Alors, il y a des gens, son frère était aussi un élève du Gaon de Vilna. Alors les gens sont allés chez Abraham de Vologine, il dit, mais tu fais l'éloge de ton frère, je l'aimais. Qu'est-ce que tu as laissé pour le Gaon? Tu as dit tellement de trucs. Voilà. Son frère, il ne parlait pas à Shabbat, ou même, je crois même, peut-être toute la semaine non plus. Surtout Shabbat, il ne parlait pas. Quand il voulait quelque chose, il disait des psukim, ou bien il disait des mishnayot, etc. Chez lui, on comprenait. Quand il voulait des mishnah, on comprenait qu'il voulait ou de l'eau pour se laver, ou des carottes, etc. Il avait les mishnayot qu'il fallait, quoi, ou les gmarot qu'il fallait pour pouvoir se faire comprendre. Alors, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as laissé pour le Gaon? Il a dit, mais vous avez rien compris. Mon frère, il connaît toute la Torah, mais comme vous connaissez Ashrei Yoshvei Betecha. Mais le Gaon, il connaît Ashrei Betecha. Et toute la Torah, comme quand on dit Ashrei Yoshvei Betecha à l'envers. Ça n'a rien à voir. Essayez de dire Ashrei Yoshvei Betecha à l'envers. Pas que vous n'y arriverez pas, mais ça coule pas de source. Alors, donc on dit Hal Hashem Tigmelou Zot, est-ce que Hashem, vous allez lui payer? Gomet, c'est-à-dire vous pourrez le rembourser. Ceci, Am Naval Velo Chacham, peuple, on verra, Naval et Chacham, c'est tous les deux des mots qui veulent dire pas très intelligent. On regardera dans le détail la différence entre Naval et Chacham, et Lo Chacham, pardon. Alors, Hu Avicha, Kanecha, pourtant il est ton père, il est Kanecha, c'est comme quand nous disons dans la Tfila, Kone Hakol. Il est connu à Kol, il a tout acquis. C'est-à-dire, il te possède, au sens qu'il est ton créateur. Parce qu'il est ton. Ou Asra, il t'a fabriqué et il t'a fortifié. Voilà. Ça, ce sont les psukim. On va maintenant regarder d'abord les rachis, en tout cas une partie des rachis. Rachidi sur Azinu Hashamayim. Rachidi, que les cieux prêtent l'oreille. Et mon cher Abbé nous dit aux cieux, prêtez l'oreille. Shani matre ba'em l'Israël. Parce que j'avertis les Bnei Israël, je les mets en garde. Et je veux que le ciel et la terre, vous soyez témoins qu'effectivement je leur ai dit tout ça. Et Tishma Haaretz aussi, pourquoi est-ce qu'il témoigne le ciel, pourquoi est-ce qu'il prend un témoin le ciel et la terre? Alors Rashi dit, parce que Moshe Rabbeinu a dit, Ani Basar Vadam, je suis un être de chair et de sang, le Mahar Animet, demain je serai mort, Im Yomru Israël, Lokibalnu Aleinu Abrit, si les Bnei Israël disent, ben, on n'a jamais accepté l'alliance, Azmi Ba ou Makrishan, qui est-ce qui va venir aller contredire? Le Fichach, Heid Baem Shamaim Vaaretz, Eidim Shen Kayamim Leolam. Donc il a, Moshe Rabbeinu a mobilisé des témoins contre les Bnei Israël, le cas échéant. Il a pris des témoins qui vivront autant que le monde sera monde, donc il y aura des Bnei Israël. Veod Sheim Yisku Yavou Eidim Veitnus Chaham. Et c'est encore autre chose, c'est que ce sont des témoins qui, le cas échéant, vont distribuer les salaires. Ça veut dire, si les Bnei Israël le méritent, alors, à Geffen Titen Piria, la vigne donnera son fruit, c'est-à-dire, quel est le fruit de la vigne? Nous? Quel est le fruit de la vigne? Le vin, oui. C'est juste révision. La vigne donnera son fruit, le vin, Ve'aretz Titen Yevula, et la terre donnera sa récolte, donc, Ve'ashamayim Yitnu Talam, les cieux donneront leur rosée, Ve'im Yitraivu, et si au contraire les Bnei Israël, ceux qui sont Chayavim, il faut les sanctionner, Astiye Ba'em Yada Edim Trila, la main, comme la halakha est que quand on condamne, les témoins sont ceux qui vont jeter la première pierre, comme on dit en français. Quand on est témoin de quelqu'un pour faire condamner quelqu'un à mort, c'est pas une petite chose. C'est-à-dire, il faut prêter la main. Le maasé, en général, celui sur lequel on jette des pierres à ce moment-là, il est déjà mort. Mais il faut le jeter quand même. Parce que dans la skila, on jette une pierre à quelqu'un qui a déjà. Normalement, il est mort depuis longtemps. Enfin, pas longtemps dans le temps, mais il est déjà gravement mort parce qu'il s'est déjà écrasé sur le sol, on a déjà mis une pierre et tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les témoins donc vont sanctionner, ils vont punir. Ve'atzar et ha-shamayim. Ve'lo yiyeh matar ve'adama lo titen et yevula. Le ciel sera fermé, il donnera pas la pluie et la terre ne produira rien. On n'est pas à sa récolte. Donc les témoins vont sanctionner ou les témoins vont récompenser. Et puis ensuite, Vavatem Mera al yedei haumot, et ensuite, vous serez chassés rapidement de la terre par les peuples si vous vous conduisez mal. Les autres peuples vous chasseront de la terre d'Israël. Ça ne dérange personne, semble-t-il, ce que Rashi est en train de dire ici. Est-ce qu'il est en train de dire qu'on présente quelque chose comme si le ciel et la terre allaient sanctionner, punir ou gratifier? Ça veut dire quoi? C'est bien entendu, il faut entendre que c'est Hachem qui va donner, mais Hachem va passer par eux pour donner la récompense et la sanction. Parce que c'est le rôle des témoins, les témoins sont là pour avertir, donc pour enseigner, et les sanctions comme les salaires font partie de l'enseignement. Et donc être témoin, parce que qu'est-ce que dit le témoin? C'est celui qui parle à celui qui va faire la faute, et qui lui dit, sache que si tu te conduis de cette manière-là, tu transgresses telle et telle chose, tel et tel interdit, et ta sanction sera ceci et cela. Donc, les témoins font des remontrances, au sens, ils remontrent la halakha à celui qui est en train de vouloir la transgresser. Et donc, que le salaire positif ou négatif passe par eux, ça n'est que la suite du rôle de témoin. Quand on prend quelqu'un à témoin, ça veut dire, c'est pour cette manière-là, ça veut dire, je te charge des remontrances à faire pour que les Bnei Israël, en l'occurrence, se reprennent, fassent tshuva. C'est clair? J'ai quelque chose à dire? Rien à dire? Yarov Kamatar l'écrit. Alors, on revient ici. Rashi dit, Zuhi Aedut She Taidu. Voilà le témoignage que je veux que vous portiez. She Ani Omer Bifnechem. Je dis devant vous, ciel et la terre, Torah Shenatati l'Israël, Shehi Chayim Leolam, Kamatar Aze, שהוא חיים לעולם, כאשר ירפו השמיים טל ומטר. C'est un ספרי, que Rashi rapporte ici, et qui dit, la Torah que je donne aux Bnei Israël, qui est en fait une Torah de vie, qui donne la vie au monde et pour l'éternité. Elle est comme cette pluie-là, qui apporte la vie aussi, Grâce à la pluie, ça va pousser, il y aura de la nourriture, on va dire. Lorsque, effectivement, le ciel va déverser, il va laisser, on avait dit, s'infiltrer, descendre, la pluie et la rosée. Yarof. Alors Rashi traduit la shon yatif. Le hatif, c'est goûter, c'est le goutte à goutte. Une tipa. Le hatif, c'est la shon tipa. C'est-à-dire, moi je traduis par infiltrer. Ça veut dire ici, ça va descendre lentement, progressivement. Alors, comme c'est marqué effectivement, il ramène un pasouk dans Tehilim, ira fou deshen, ira fou tal. Alors, vous voyez, c'est marqué l'ikri. L'ikri, c'est construit sur la racine lokia, la kaf, prendre. L'ikri, c'est ce que j'ai pris, littéralement. D'accord? Yarov Kamata l'écrit. Ce que j'ai pris. Mais qui a pris et qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce que c'est ce l'écrit? C'est qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Yarov Kamata l'écrit. C'est un peu difficile d'entendre ici pourquoi c'est appelé l'écrit. Alors, Hirsch explique que l'écrit, c'est l'ensemble du point de vue du maître. Donc, c'est-à-dire l'enseignement, apprendre. Que le maître va le donner, l'écrit, apprendre. Et là, on dit justement que cet enseignement, on dit tisal, enfin, d'abord, yarov kamatar l'écrit. C'est-à-dire, là, il faut, mon enseignement, il est à prendre, il faut le donner très progressivement. Si on va dans Rashi, ça veut dire tipa, tipa. Une goutte après l'autre, progressivement, il faut donner cet enseignement. L'enseignement de la Torah, c'est un enseignement qu'il faut donner progressivement, mais pas sous forme de pas choquer ou donner trop de choses à la fois, de telle sorte que ce soit impossible de recevoir tout cela. Et ensuite, Tizal Katal. Rachidi, Sheakol Smechimbo. Le fiché Amatar, Yeshbo Atsavim, la Briot, Kegon, Olchedrachim, Mishaya, Boremaleyain, Rachid dit, la rosée, tout le monde s'en réjouit. La pluie, on ne s'en réjouit pas toujours. Il y a toujours des gens qui, quand on envoie la pluie, sont mécontents. Par exemple, les voyageurs. Les voyageurs qui sont là, qui sont en chemin, ces gens-là, ils voudraient qu'il ne pleuve pas. Parce que les chemins sont boueux, parce que c'est difficile de voyager quand il pleut. Donc eux, ils voudraient qu'il ne pleuve pas. Ou bien si quelqu'un a un bord, il a un puits, son puits est plein de vin. Donc s'il se met à pleuvoir, semble-t-il, ben, il va pleuvoir dans son puits et ça va abîmer son vin. Ça va lui couper son vin, naturellement. Donc ces gens-là ne seront pas obligatoirement contents, dit Rashi. Tandis que de là, donc ça veut dire, dans la Torah, il y a un aspect qui n'est pas toujours bien reçu par tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont gênés par ce qu'ils apprennent dans la Torah. Mais bon, on est obligé de... Bon, il faut donner tipa tipa, jusqu'à ce que ça soit comestible, en quelque sorte. Si on balance toutes sortes de... C'est trop difficile à supporter. Mais c'est difficile. Puisqu'il y a des gens pour lesquels ce sera difficile, il faut adapter, il ne faut pas modifier, il ne faut pas fausser la chose, mais il faut le donner avec la bonne dose. Comme on donne à manger à un enfant avec des doses. Pardon, c'est
un enseignement de Moshe.
Oui, c'est présenté ici la Torah dont parle Moshe Rabbeinu. C'est Moshe qui dit, j'ai des choses à vous dire, je veux. Je veux que ce que j'ai pris, c'est-à-dire cette Torah que j'ai prise, ça fait probablement sens au fait qu'il l'a prise aux anges. D'accord ? Et les anges voulaient que la Torah reste au ciel. Moshe Rabbeinu est allé au ciel et il l'a prise et il a obtenu d'Hachem que Hachem la lui donne à lui plutôt que de la laisser chez les anges. Donc c'est l'écrit, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris cela. Et mais maintenant, cette Torah-là, elle peut être difficile à gober, quoi, si vous voulez. Sur certains points, c'est difficile. Il faut aller progressivement. Par contre, d'un autre côté, il y a dans la Torah des aspects qui sont tal, qui sont arrosés. Ça, c'est quelque chose qui réjouit tout le monde. Alors là, on dit tizal. Qu'est-ce que ça veut dire ici, tizal? Alors, Hirsch fait une étymologie avec tizal. Il dit, donc c'est nasal, nozel c'est liquide. Nasal, ça veut dire liquide. Et il rapproche nozel de Nochel, nasal de Nachal. Nachal, c'est les fruits qui sont tombés de l'arbre. Quelque chose qui ont été arrachés. Donc c'est une certaine violence. Donc c'est une séparation d'un endroit où les choses étaient. C'est une séparation avec une certaine violence. Un arrachement. Ça. Parce que ça, c'est le shin. Et le zayin, il affaiblit la chose. Il y en a chal, puis nasal, surtout quand je le dis avec un plus bas, mais en fait, nasal, le zayin est plus bas, plus faible. Et donc, c'est un sans violence. C'est-à-dire, en fait, c'est le sans violence, c'est le liquide qui coule. En fait, c'est pas un arrachement d'un solide, c'est le liquide qui coule. Et alors maintenant, il y a une différence entre l'écrit et imrati. D'accord ? Ici, j'ai une notion de amira, qui est une parole. Mais imrati, a priori, c'est pas l'enseignement en tant que tel, mais imrati, c'est plutôt la parole qui ordonne. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il a fait deux choses. Enfin, il a enseigné et il a ordonné. Il y a les mitzvot et puis il y a l'enseignement. Et Moshe Rabbeinu, quand il dit ça, je veux que les deux choses perdurent. Qu'à la fois on transmette l'enseignement, mais aussi qu'on transmette ce que j'ai donné comme Imra, bien que normalement, Imratib peut-être, d'habitude on fait la différence entre Amira et Dibour. Le Dibour c'est une parole dure, Amira une parole ronde, une parole plus douce. Mais Imra, par rapport à l'écrit ici, ça veut dire quelque chose qui est de l'ordre du dîne de la loi. Qui s'irime à les déchets, c'est comme donc cette pluie arrière de tempête qui tombe sur le gazon, et comme des averses sur les brins d'herbe. Tout ça, ça indique effectivement des degrés ou des niveaux d'enseignement. Comment est-ce qu'il faut enseigner? Il y a des choses qu'il faut enseigner doucement, des choses qu'il faut... Il y a toute cette variété. Ce qui est intéressant, c'est que la variété dans l'enseignement, dans la façon d'enseigner, que Rashi la donne, c'est la même variété qui se retrouve dans les variétés des pluies. On retrouve dans le matériel quelque chose qui aide, qui se retrouve aussi dans le spirituel, dans la qualité de l'enseignement.
Il y a des qualités de pluie qui sont écartées là, les orages très violents.
Oui, c'est là, ça c'est on n'a pas, ça existe évidemment aussi.
Il y a certaines limites, il y a des formes qui ne sont pas.
Qui ne sont pas mentionnées ici. Tout à fait. C'est pas le total, c'est ce qui a son probablement c'est ce qui a son pendant dans l'étude. Et on peut très bien prier, et Hachem dit, bon, je peux agréer votre prière, mais pas totalement. C'est-à-dire, toi, tu voudrais bien une prière, tu voudrais bien une pluie comme ceci. Bon, eh bien, je peux agréer de vous envoyer la pluie maintenant, bien que peut-être vous ne la méritez peut-être pas du tout, mais je ne peux pas agréer la prière au point de vous la donner comme vous la voulez. Mais vous allez la voir, la pluie, mais bon, avec des effets secondaires. L'effet secondaire, c'est qu'il y aura des inondations parce qu'il y a trop d'eau en même temps, ou parce que ça ne tombera pas, et ça ne sera pas tout à fait, ça peut être à contre-temps, etc. Bon, alors, vous aurez de l'eau, mais vous n'aurez pas l'eau de façon parfaite, parce que vous ne la méritez peut-être pas. Et alors, ensuite, il dit... Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokim. Alors, ce n'est pas ma parole en fait, ce que dit Moshe Rabbeinu. C'est pas ma parole ici que je fais entendre, que j'ai à dire. C'est en fait, ici, je parle au nom d'Hashem en fait. C'est-à-dire, je vous fais connaître la parole d'Hachem. Ce n'est pas ma parole. Et puisque je parle au nom d'Hachem, alors vous, les auditeurs, vous devrez collaborer. Bon, ça veut dire, il y a une réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans la Gemara, dans Brachot, qu'on a vu, Kafalef, qu'on avait vu, dans la bracha, que parallèlement à ce Kishem Hashem Ekra Vudel Lokinu, il y a, par rapport à Kishem Hashem Ekra, par rapport à Vudel Lokinu, c'est équivalent au Baruch et Hashem Amborach, qu'on répond. On répond, Baruch et Hashem Amborach. Et aussi, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Va'ed, d'une certaine manière. Et là-dessus, il y a toute une discussion, justement, je vous ai dit, sur où le Rambam et le Rambam s'opposent pour savoir effectivement ce qu'il en est de est-ce que c'est une mitzvah minatora, cette bracha ou pas. Et lui, Hirschi propose de répondre à l'objection très forte que fait le Rambam contre Maïmonide, en disant que le Rambam, il a lu que ici on ne parle, dans la Mechilta, et pour ce qu'on a vu aussi, on voit ici, on ne parle pas du tout de la bracha qu'on fait sur la Torah nous le matin, avant notre étude, mais on parle de la bracha qu'on fait quand on monte à la Torah, et c'est pour ça qu'il y a cette réponse. Pourquoi ? Parce que dans la bracha qu'on fait le matin, on ne se répond pas comme on répond quand quelqu'un dit il monte à la Torah, et je sais pas, ou il dit Shabbat Shalom, ou il dit quelque chose qui incite les gens, voilà, ça veut dire prier, et puis on répond. On répond, bah, c'est même Borah, Madame Vaed, ou quelque chose comme ça. Et donc là, il dit, bon, ce serait ça la réponse, c'est que Rambam considère que c'est pas de Raïta, parce qu'on n'a pas de preuve de la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, on a l'impression qu'on parle de la Bracha du matin. Non. Dans la Bracha pour Rambam, il a lu qu'on parle de la Bracha qu'on fait quand on monte à la Torah, et pas de celle du matin. Alors, je voudrais juste avant de continuer les rachis, donner une idée de la façon dont la Hamek Dava lit cette paracha. C'est important. Lui, il dit, que Shamaïm, c'est un mot général, ça parle de tous ceux qui sont mashpia, c'est-à-dire tous ceux qui influencent, qui donnent. Vadabera, justement, je vais parler une parole dure, dibour, vadabera. Alors il dit, c'est effectivement que Nagid ou Metsavé, c'est comme celui qui donne des ordres. Des mitzvahs. Voilà, je vais parler d'eux. Vetishma Aretz, et la Aretz veut dire ici l'ensemble de tous les récepteurs, de tous ceux qui vont recevoir ce que le ciel, ce qui représente le ciel, donne. Donc on a affaire ici à des enseignants et à des récepteurs de cet enseignement. Et on vient dire ici que Tishma Aret, ça veut dire que les Mushpaim, ceux qui sont influencés, ceux qui reçoivent, sont très importants dans l'acceptation de ce qui est donné. Comme le Navi le dit, et il dit clairement que la terre doit répondre, en fait. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'en fait, l'enseignement, il se fait à deux. C'est-à-dire que l'enseignant, il peut faire tout ce qu'il veut, si l'enseigné n'est pas récepteur, s'il ne s'est pas mis en posture de récepteur, ben, l'autre, il peut raconter tout ce qu'il veut, ça ne rentrera pas. Être mashpia contre la volonté des gens. Et on ne peut pas non plus être mashpia, on ne peut pas influencer s'il n'y a pas une volonté, ici on parle Moshe Rabbeinu demande cela, il demande que les gens veuillent recevoir. Pas simplement, oui, on ne peut rien y faire, il va nous assommer avec ce qu'il va dire, donc on ne peut pas fuir. Mais c'est pas ça que... Il faut que on se mette en posture, dans la posture de recevoir. À la terre, il s'adresse aussi à la terre. Toi, tu as aussi quelque chose à faire. Sinon, il aurait suffi de dire que les cieux donnent. Bon, puis maintenant, la terre, sur terre, on recevra ce qu'on recevra. Non, je veux que ça se joue à deux. Je veux que la terre, elle aussi, joue son rôle et reçoivent. Enfin, c'est un travail de réception. Alors, Yarov Kamatar l'écrit, donc, comme de la pluie, que mon lekar, c'est-à-dire ma Torah, soit qu'elle s'insinue, qu'elle. Alors, il dit, les cieux envoient la pluie. Donc, toutes les influences, tout ce qui vient, tout ce qui est une Ashpaha, est en fait comparé à la pluie. Et donc, il met en garde ici, je veux que ceux qui influencent n'influencent que conformément à l'écrit, que conformément à ma Torah. Ne venez pas raconter les choses étrangères. C'est d'après ce que la. Je veux que vous soyez mashpia selon la Torah et selon les mitzvot, conformément à la Torah et aux mitzvot. Et l'écrit, lui, dit que c'est la profondeur des halachot, c'est le iyun de la Torah qui ne s'acquiert que par Amal et Yegia, c'est-à-dire qu'en bossant, qu'en travaillant. Et c'est pour ça que ça s'appelle, c'est pour ça que ça s'appelle l'écrit. L'écrit, c'est ce que j'ai pris, mais j'ai acquis, comme on dit, lokeach, comme meka, j'ai acheté, c'est-à-dire j'ai travaillé pour l'obtenir. C'est pas venu gratuitement. Donc, ça viendra pas gratuitement pour personne. Ça ne s'obtient pas gratuitement. Ensuite, Tizal Katal, ce sont des Hashpaot Ktanot, c'est-à-dire des plus petites influences. La pluie, c'est gros, et des influences plus petites, qui sont comparées à la rosée, celles-là, elles viendront à l'aider Imrati, c'est-à-dire grâce à des paroles plus légères de Torah qui sont compréhensibles aussi aux gens qui ne se sont pas donné la peine, suffisamment de peine pour travailler. Donc on va travailler. Lui va expliquer tout le problème, toute la paracha de Hazinu comme la description de la transmission de la Torah. Comme ça que le Hamak Dabar il va dire quelles sont les conditions que Moshe Rabbeinu pose à la transmission de la Torah. Et je vous ai dit, il fait partie des choses, des versets difficiles, parce que on peut dire dans Rashi dit Shiret lo banav mumam dorike shuftak. Ça dépend comment on découpe le verset. Si on dit Shiret lo, Rashi dit que targumo, c'est-à-dire Havilu lehon lole, c'est-à-dire en fait c'est leur faute. Qui sait, c'est la faute des enfants et pas la sienne. La faute des Bnei Israël et pas la faute d'Hachem. On dit Banav Moumam, leurs enfants étaient, Banav Ayou, c'était ses enfants, Vehashrata Sheishritu Hi Moumam. Et la corruption, leur corruption, c'est ça leur défaut. C'est un défaut qu'ils avaient de tout corrompre. Ou alors, Banav Moumam, Moumam Shel Banav Haya Velo Moumo. Ou alors on dit, c'était un Moum, un défaut des enfants, mais c'était pas le sien. C'est-à-dire, en fait, dans la deuxième partie, on dit, Rashi explique, ils étaient ses enfants, mais la corruption, c'est ça leur défaut. Mais cette corruption, ils l'ont en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut dire ça? La corruption qu'ils ont pratiquée, c'est eux qui l'ont inventée en fait. Et puis le dernier Rashi dit, l'accent est mis sur le fait que c'était la leur et pas celle de et pas la sienne. C'est-à-dire, il faut dire comme ça, ce verset, dans le mot shichet, vous connaissez ce mot, c'est donc, vous le retrouvez dans Baal Tashrit. D'accord ? On n'a pas le droit de corrompre, de gaspiller, etc. Donc ce mot-là, il existe déjà dans la Torah, il est utilisé lorsqu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu que les Bnei Israël ont fait une veau d'or. Alors, il lui dit, Lech red va descendre, qui shichet amcha. Ton peuple, alors, a agi de façon, de mauvaise façon, quoi. Ils se sont gaspillés, ils se sont abîmés, en fait. Ils se sont dégradés. Ils se sont corrompus eux-mêmes, au sens de, ils ont perdu leur valeur. Et Moshe Rabbeinu aussi, dans la paracha la semaine dernière, c'est marqué qui yadati achre moti, Moshe Rabbeinu dit, je sais bien après ma mort, qui achret tashkitun, je sais bien que vous vous corromprez, si on dit comme ça, vous allez certainement agir de la mauvaise façon, et vous allez dévier du bon chemin. Donc quand notre verset vient et dit « Shichet lo lo bana gumam », ce mot est choisi de telle sorte qu'il fascine avec ces versets qu'on a déjà vus. Donc, ça veut dire, on parle du clan Israël lorsqu'il se détourne de Hachem. Donc Rashi a l'air de se battre contre quelque chose. Là, il amène trois pshatim, là, et il n'est pas tout seul, les autres aussi, tout le monde s'arrache les cheveux. Les deux derniers versets, les deux commentaires de Rashi parlent des deux mêmes mots, banav mumam, banav mumam. Qu'est-ce qui dérange Rashi dans cette, quand il dit ça? Est-ce qu'il y a plusieurs réponses possibles? Regardez le Rashi en Lashon HaKodesh, en hébreu. Qu'est-ce qu'il dit ici, Rashi? Comment il le dit? C'est pas le défaut d'Hachem, en quelque sorte, c'est pas la faute d'Hachem. Ne deviennent pas toujours des parents. Il y a des enfants qui sont bien élevés, ils ont mal tourné quand même. On les a bien élevés, ils ont mal tourné. Ça existe. Pas dire systématiquement que les gens tournent mal, c'est qu'ils ont été mal élevés.
Il y a quand même toujours une petite part de responsabilité qui existe de la part des parents. Dans les relations, pas non plus particulièrement des parents, si les enfants...
C'est possible.
Mais je pense que dans la relation que nous avons avec la chaîne, par rapport à ceux qui se corrompent, qui se, comme on dit, se dévalorisent, c'est ça qui me semble extrêmement important, parce que Hachem a laissé se dérouler quelque chose et
il nous laisse notre liberté.
Il nous laisse une liberté, c'est sûr, mais sachant que lui, il connaît la suite de l'histoire, comment il se positionne par rapport à ceux qui se corrompent et par rapport qui essayent de avoir envers lui, disons, une fidélité dans son écho.
Mmh. Ce qui est dérangeant, c'est dans ce verset, c'est l'ordre des mots. C'est pas assez marqué. Nous, on se serait attendu, si c'est pour dire que c'est pas Hachem, fautif, on aurait dû dire Shichet Lolo. La corruption, la dégradation, elle n'est pas de son fait. Lo, le Lamed Alef d'abord, négation, Lo, c'est pas à lui. Alors ici, c'est marqué Shichet Lo, Lo. C'est nulle part ça figure comme ça. On ne met pas la négation après à la fin, c'est un peu surprenant. Mais peut-être que justement, ça veut dire que on a l'air d'attribuer la corruption à Hachem et la perfection au clan Israël. A priori, c'est pas ce que la Torah veut dire.
En kéros, le tabosa, ce taboso, là, c'est le portrait d'un humain. C'est une connotation de tabor.
De?
C'est pas du tout la connotation de tabor.
Non, non.
C'est une toléva, c'est une.
C'est l'abomination. On peut donc le lire de plusieurs manières, en réalité, selon qu'on met le lot à. On attache l'eau à Banab. Comment ça c'est Chichet de l'eau Banab. C'est-à-dire, la mauvaise lecture, ce serait de dire ils ne sont pas l'eau Banab, ce ne sont plus ses enfants. Comme si, voilà, ils se conduisent tellement mal, ils ne sont plus mes enfants. On peut pas dire d'un enfant qu'il n'est plus mon enfant. On peut pas.
Je casserai mon alliance.
Ok. L'alliance n'est plus là, mais on peut pas dire que c'est plus les enfants. Ils sont toujours ses enfants, en fait. Hachem a dit, vous serez quand même toujours mes enfants. Et pourquoi c'est au passé, en fait? Ils étaient. Peut-être on peut dire que les Bnei Israël dans la Shira de Hazinu, ils sont écrits ou bien ils sont présentés comme étant son peuple, ou bien Yaakov, ou bien le peuple, la nation, ou bien Shroun, et très souvent à la troisième personne simplement, il. Et peut-être que, donc nous, notre verset, il a un terme plus chaleureux, il a le mot enfant, banal. Donc Rashi a l'air de réagir ici. Vous êtes votre père, donc vous êtes ses enfants. Il vous a installé, c'est lui qui vous a qui a fait que vous êtes ce que vous êtes. Ça voudrait dire ici que éventuellement être ses enfants, ce serait déjà un goût. Être des enfants d'Hachem, mais évidemment ça on ne peut pas non plus le dire, c'est un honneur, c'est pas un défaut. En fait, peut-être que Rashi veut dire que la corruption, en fait, qu'ils avaient, c'est ça leur moum, leur défaut, c'est cette corruption. C'est-à-dire que finalement, Rashi veut dire. Moumam, ouais, pourquoi Moumam, Moumo, etc. vient dire que le commentaire qu'on avait utilisé au début, c'est que le mauvais chemin que les Israël ont pris, c'est ça qu'on appelle Moumam, en fait. Les mauvais chemins qu'ils ont pris, c'est ça leur Moum, et c'est pas le Moum d'Hachem, ils ont pris un mauvais chemin. C'est leur défaut, c'est que ils ont, comme je vous ai dit, mal tourné, en fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ont été disqualifiés dès le départ, ils ont mal tourné. Voilà, on va s'arrêter là. je vais dépasser les bornes. Pardon, que Tamim entier. Mais des fois, c'est Tamim, ça veut dire. Si tu mets une connotation négative à Tamim, à